Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans l'émission La fille à la fenêtre, une émission de féministes sur la littérature écrite par des femmes. Le mois dernier, on avait parlé de l'émergence de la figure de la femme au foyer à l'époque de la Révolution industrielle, quand la « femme inactive » entre guillemets est devenue l'incarnation de la prospérité familiale bourgeoise. Donc cette révolution industrielle, elle a divisé les femmes en deux catégories. D'un côté, celles qui ne travaillaient pas et qui étaient montrées en exemple par la société comme étant le modèle à atteindre, et d'un autre côté, celles qui travaillaient et donc qui étaient dévalorisées, désignées comme sales, étant de mauvaises femmes, qui s'occupent mal de leurs enfants, etc. etc. Et au XIXe siècle, on voit apparaître un nouveau argumentaire qui vient accentuer cette division. Les femmes bourgeoises qui ne travaillent pas vont être désignées comme fragiles, et les femmes prolétaires qui travaillent vont être désignées comme étant des personnes sales, contagieuses. À ce sujet, il existe un livre qui s'appelle « Fragile ou contagieuse, le pouvoir médical et le corps des femmes ». C'est un pamphlet écrit par deux féministes américaines en 1973, Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Et c'est un livre qui a été traduit en français en 2016 aux éditions Cambourakis par Marie Valera. Donc je me suis beaucoup basée sur ce livre pour préparer cette émission, où il va être question de cette injonction à la maladie qui va être faite aux femmes bourgeoises au XIXe siècle. On parlera surtout des États-Unis parce que le livre « Fragile ou contagieuse » se base sur le contexte américain et le livre qu'on va lire est aussi écrit par une américaine. Mais après, c'est quelque chose qui correspond aux tendances qu'il y avait à cette époque-là en Europe et aux États-Unis, quoi. On avait parlé le mois dernier de Catherine Blunden, qui a écrit ce livre « Le travail et la vertu » sur l'invention de la figure de la femme au foyer. Et elle a écrit « La fragilité féminine a un seuil, celui des classes sociales qui emploient des domestiques ». Donc on va parler aujourd'hui de ces femmes qui sont au-delà de ce seuil de la société où on doit être considérée comme fragile. Et on va parler des conséquences qu'a eu ce modèle sur les femmes bourgeoises. Donc au XIXe siècle, la science médicale, qui est évidemment à 100% masculine, prend le pas sur le pouvoir ecclésiastique dans le contrôle du corps des femmes et de la reproduction. Avant, au Moyen-Âge, c'était l'Église qui avait le contrôle total sur la reproduction et le corps des femmes. Et au XIXe, c'est petit à petit la médecine, car notamment aux États-Unis et en Angleterre, les protestants vont montrer de plus en plus d'intérêt pour la science, ne vont pas s'offusquer du fait que la science se mette à expliquer des choses que la religion, au départ, était seule à expliquer. Et donc, petit à petit, on va passer d'une justification morale du patriarcat à une justification physiologique. C'est-à-dire, avant, on disait les femmes sont vicieuses, elles représentent le péché originel, c'est à cause d'Ève qu'Adam a goûté à la pomme, blablabli, blablabla. Donc, on était sur un truc moral. Et à présent, on va dire, on va donner des explications biologiques au fait que les femmes soient dominées. Bon, on notera qu'aujourd'hui, la science s'est complètement affranchie de la religion. Et que maintenant, les femmes dépendent aussi totalement du pouvoir médical pour le suivi le plus basique de leur reproduction. Et en fait, c'est les bases de cette domination actuelle, elles remontent au XIXe siècle, au moment où le pouvoir médical a posé son emprise sur le corps des femmes. Et donc, pour se conformer au double modèle de travail des femmes, donc, c'est-à-dire d'une part les bourgeoises qui ne travaillent pas et d'autre part les prolétaires qui travaillent, la biologie médicale, elle a dû dresser elle aussi deux portraits distincts de femmes, parce qu'en fait, on ne peut pas juste dire les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, les femmes sont toutes malades, les femmes sont extrêmement fragiles, etc. S'il y a plus de la moitié de la population, plus d'une grosse moitié de la population, je pense, qui travaille en usine, dans des ateliers, pour des horaires extrêmement durs, dans des conditions très difficiles, etc. Donc en fait, il faut aussi diviser les femmes en deux et donc en faire faire un modèle qui soit adapté à la classe moyenne supérieure dont on ne veut pas que les femmes travaillent, et l'autre adapté aux femmes pauvres de la classe ouvrière, parce qu'on a besoin de leur travail pour faire tourner l'économie capitaliste. Donc, les femmes riches étaient malades par essence, elles étaient considérées comme trop faibles, trop fragiles, pour faire autre chose que des passe-temps inoffensifs. Et les femmes ouvrières, elles, étaient présentées comme robustes et en bonne santé, mais contagieuses, dangereuses pour les classes supérieures. On avait peur qu'elles transmettent des maladies. On ne s'inquiétait pas du fait qu'elles soient malades, on les considérait en bonne santé, mais on avait peur qu'elles soient le vecteur de maladies. Alors qu'en fait, c'était elles qui risquaient et qui tombaient le plus effectivement et gravement malades, parce que, donc, comme on le disait, elles devaient subir des journées de travail extrêmement longues. On parle même pas de journées de travail de 10 heures, on parle de journées de travail de 12, 13, 14 heures. Elles devaient subir le manque de sommeil, la malnutrition. Tout ça les exposait davantage à tomber malades et à avoir des accouchements beaucoup plus difficiles. Et donc, ça les exposait aussi à une certaine... À plus de mortalité en couche, en fait. Et donc, d'un côté, on a la science médicale qui a construit une image de femme bourgeoise extrêmement fragile, qui doit être tout le temps malade, etc. etc. Et d'un autre côté, du coup, être malade en même temps est devenu une part de la culture féminine. C'était à la mode, en fait. Barbara Ehrenreich et Deirdre English, elles notent qu'aux États-Unis, c'est à partir de 1850. Et je pense qu'on peut dire que c'est probablement plus tôt même que ça commence en Europe, parce que il me vient en tête des exemples de livres où il est question de jeunes femmes malades, diaphanes, et qui sont tout le temps malades, etc., dans de la littérature qui date d'avant 1850. Et donc, le modèle de beauté féminin devient lui aussi la pâleur et la langueur. Alors on va lire une petite citation de ce qu'en dit une doctoresse américaine à la fin du 19e siècle. C'est une citation qui est aussi tirée du livre « Fragile ou contagieuse ». Alors c'est une doctoresse qui s'appelle Marie Putnam Jacobi qui fait cette déclaration dans un livre qui date de 1895. Marie Putnam Jacobi, c'est la première américaine qui a réussi à rentrer dans une école de médecine et à devenir médecin. Il est considéré comme naturel et presque louable de céder sous quelque effort que ce soit. L'épreuve de l'hiver, une maison envahie par les domestiques, une dispute avec une amie, sans parler de raisons plus légitimes. Les femmes qui s'alitent à chaque cycle menstruel pensent s'évanouir si jamais au cours d'une telle crise, elles se tiennent sur leurs jambes quelques heures. Constamment attentives à leurs nerfs, incitées à les surveiller par des conseillers bien intentionnés mais limités, elles ne sont bientôt plus que des boules de nerfs. Et il y a également une autrice et économiste féministe, Charlotte Perkins Gilman, dont on va lire dans la deuxième partie de cette émission une nouvelle, qui fait un constat amer de cette situation. Elle dit « Les hommes états-uniens ont engendré une race de femmes assez faibles pour être prises en charge comme des infirmes. » ou suffisamment fragiles sur le plan mental pour croire qu'elles le sont et pour apprécier leurs conditions. Bon alors, ceci dit, il faut avouer qu'on ne sait pas exactement quelle était la proportion de femmes malades à cette époque-là. Bon, il existe peu de statistiques. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y avait un taux de mortalité en couche beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Enfin, c'était la même chose dans la plupart des pays européens. Qu'on se rappelle de Jane Austen, dont on a parlé dans l'épisode 3, dont une grande majorité de belles-sœurs, de nièces et de cousines sont mortes en couche. Pour les chiffres qu'on a du taux de mortalité des femmes en couche, en 1915 aux États-Unis, c'était 61 pour 10 000 contre 2 pour 10 000 aujourd'hui. Mais on peut estimer que c'était beaucoup encore plus élevé avant 1915. Et il y avait aussi la tuberculose qui faisait des ravages chez les femmes jeunes. Maintenant, on se dit que c'est les changements hormonaux de la puberté qui, à l'époque, les rendaient plus vulnérables à cette maladie. Mais à l'époque, les médecins fantasmaient complètement sur la tuberculose et disaient que c'était une maladie qui venait de l'utérus ou des ovaires, enfin, en tout cas du système reproductif féminin, et que c'était pour ça que les femmes, majoritairement, avaient la tuberculose. Mais en fait, tous ces faits, ils peuvent pas expliquer pourquoi ce phénomène culturel d'invalidité permanente de ces femmes, il prend une telle ampleur. C'est pas la situation des femmes en soi qui a généré cette tendance, c'est bien le corps médical lui-même. toutes les fonctions du corps féminin étaient considérées comme intrinsèquement malades par les médecins. Intrinsèquement malade, ça veut dire malade en soi, juste comme si elles étaient nées malades. La puberté, c'était considéré comme une maladie, les règles étaient considérées comme une période de mauvaise santé où il fallait impérativement s'aliter, la grossesse était considérée comme une maladie, alors, sans parler de la ménopause, c'était la maladie finale, incurable, la mort de la femme dans la femme. Parce qu'après la ménopause, évidemment, vu qu'on ne peut plus se reproduire, on n'est même plus considéré comme une femme. Et donc, cette situation créée de toutes pièces, elle servait à justifier plein de choses par la suite. Elle a servi à justifier le non-avancement des droits des femmes. On disait qu'elles étaient trop faibles pour faire des études, trop nerveuses pour le travail intellectuel, on disait même que le travail intellectuel pouvait nuire à l'activité de leur utérus. C'est quand même pas mal comme argument. Ou même trop hystérique pour pouvoir voter, etc., etc. Et du coup, ça a créé une chasse gardée pour les médecins hommes. C'était vraiment un pont d'or pour eux à deux niveaux. Parce que d'une part, les femmes étaient considérées comme perpétuellement malades. Enfin, on parle toujours des femmes bourgeoises, on est d'accord. Donc, ça leur faisait du travail parce qu'ils avaient plus de patientes pour des femmes qui n'étaient même pas forcément malades, en fait. Et d'un autre côté, les femmes étaient complètement discréditées en tant que soignantes, en fait, parce qu'on disait mais vous êtes malade, vous n'allez pas pouvoir soigner des gens, vous êtes ceci, cela. Donc restez donc au lit, restez dans votre maison plutôt que vous agiter à vouloir faire des études de médecine ou je ne sais quoi. Et donc la même doctoresse qu'on a citée tout à l'heure, Marie Putnam Jacobi, voilà ce qu'elle dit en 1895. « En fin de compte, je pense que c'est en étudiant l'attention accrue envers les femmes, et en particulier leur nouvelle fonction de patiente lucrative, imaginée il y a moins d'un siècle, que l'on peut expliquer en grande partie la mauvaise santé des femmes récemment mise au jour. » Alors c'est un peu dense cette citation. Donc en fait, elle dit « Il faudrait se pencher sur ce phénomène qui fait que les médecins s'intéressent particulièrement aux femmes, parce que du coup, c'est un secteur très lucratif pour eux qui est autant de patientes. » Elle dit que c'est ça qui explique la mauvaise santé des femmes à l'heure actuelle. En fait, on les convainc qu'elles sont malades, et en fait, elles deviennent vraiment malades. It's gonna last. Success has come to life for them, and failure's always there. Time waits for no one, and I wish someone would care. The hurt, all of this goes to. And I wish someone would care. I wish someone would care. Don't you think someone should care? Or don't you think someone should? Vous êtes bien de retour sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans l'émission La fille à la fenêtre. Et donc on parle de la condition de malade des femmes bourgeoises au 19e siècle et là tout plus particulièrement aux États-Unis. Donc on a vu avec la première partie de l'émission que les médecins ont un pouvoir total en fait sur les femmes. Et il y a un livre très très étonnant qui nous donne un bon exemple de ce pouvoir délirant qu'ils ont. Alors c'est un livre qui est un témoignage d'une femme en 1860 qui a été traduit en français, qui s'appelle Mère, alors épouse, mère et folle, par Elisabeth Packard, plaidoyer pour moi-même, asile de Jacksonville, 1860. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Elisabeth Packard, c'était la femme d'un pasteur calviniste qui s'est fait enfermer pendant 3 ans par son mari à l'asile psychiatrique parce que, en fait, elle s'était mise à critiquer ses points de vue en matière de religion. Elle disait qu'elle voulait quitter le calvinisme pour aller vers une religion qu'elle appelait chrétienne, plus globale, plus humaine, etc. Et donc, vu qu'elle n'était plus d'accord avec lui, il l'a fait interner pendant 3 ans. Et en fait, ce livre, c'est un plaidoyer qu'elle fait quand elle est à l'asile psychiatrique. Elle écrit plein de textes. Donc, il y a eu des textes écrits au directeur de l'asile, des lettres à ses amis et plein de considérations théologiques. Donc, c'est un peu le problème de ce livre. Pour ça, j'en conseille pas forcément la lecture parce qu'il est bourré de pages et de pages entières où elle parle de la Bible et de la théologie et de pourquoi le calvinisme c'est pas bien et telle version du protestantisme c'est mieux, etc. Donc, je vous avoue que j'ai eu un peu du mal. Mais il y a quand même des pages qui sont assez dingues. C'est vraiment tout à fait rare d'avoir ce genre de témoignage. Donc en fait, je vais vous lire un tout petit extrait de ce livre où elle parle du moment où des médecins sont venus pour valider le fait que son mari voulait l'envoyer en hôpital psychiatrique. Comme je m'apprêtais à prendre mon bain, j'aperçus par la fenêtre mon mari qui se dirigeait vers ma chambre avec 2 médecins membres de son église. Craignant d'être surprise des vêtus, je fermais précipitamment ma porte pour m'habiller en toute hâte. Mais avant même que j'aie commencé, mon mari força ma fenêtre avec une hache et, suivi des médecins, pénétra dans ma chambre. Prise de peur et ne voulant pas être vue presque nue, je sautai dans mon lit juste à temps pour recevoir ces visiteurs impromptus. Le trio approcha de mon lit, chacun des médecins prit mon pouls et là-dessus, tous deux déclarèrent que j'étais folle. Je ne me souviens pas qu'il m'ait posé une seule question. Évidemment, dans ces circonstances, mon pouls devait trahir un état d'agitation extrême. Mais quelle est la femme, dotée d'un minimum de pudeur féminine et de la moindre délicatesse de mœurs, qui ne serait restée comme pétrifiée, ou presque, par une intrusion aussi subite, intempestive, extravagante, odieuse et révoltante dans l'intimité de sa chambre ? Il est grand temps de demander à d'aussi habiles médecins, le docteur Newkirk et le docteur Merrick, capables de déceler la folie au battement du pouls dans des circonstances pareilles, de révéler pour le plus grand profit de la médecine le secret merveilleux qui permet de localiser la folie dans le poignet. Puis, mon mari m'informa que les formes légales étant respectées, je pouvais m'habiller, car nous allions faire un petit voyage à Jacksonville où on m'installerait à l'asile de fous. J'obéis et me retrouvai bientôt devant le shérif qui dut me faire sortir de chez moi par la force en me faisant porter par 2 hommes dans la voiture à cheval qui prit le chemin de la gare. À la gare, je fus également porté dans le train dans les bras vigoureux de 2 hommes désignés par mon mari sous les yeux d'une foule muette et interloquée de citoyens venus pour assister à ce spectacle peu banal. Celui où une femme saine d'esprit, bonne et intelligente, est traînée de force par son mari dans un asile de fous, tout simplement parce qu'elle a d'autres opinions que lui. Voilà, donc on voit que Elisabeth Packard a un tempérament bien trempé qui fait qu'elle va pas lâcher pendant 3 ans dans son asile, elle va écrire plein de textes et elle va faire publier plusieurs livres, dont celui-ci a assez miraculeusement été traduit en français par Julie Pavesi aux éditions Payot en 1980. Il y a tout de même, malgré toutes les considérations théologiques, des choses intéressantes à puiser dans ce texte, qui est un témoignage rare de femme qui a lutté au XIXe siècle contre la tyrannie de son mari et qui a gagné. Donc concernant les femmes malades, à la fois c'est toute la société qui leur dit, qui leur serine, vous êtes malade, vous êtes fragile, vous êtes faible. À la fois, c'est le mode de vie qu'elles ont qui contribue à les rendre malades, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce qu'en fait, on les empêche quasiment de prendre de l'exercice. Elles sont enfermées toute la journée, elles sont extrêmement seules. Elles passent leur vie à attendre leur mari, elles organisent leur vie autour de son départ le matin, de son retour le soir, etc. Donc ça peut être difficile pour une partie d'entre elles de garder la tête sur les épaules, de ne pas sombrer dans le désespoir, ou même de perdre tout rapport à la réalité. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a des rapports médicaux qui vont pointer l'existence d'alcoolisme et d'usage de drogue chez des femmes au foyer. D'ailleurs, si à ce sujet vous avez plus d'informations, je suis preneuse, parce que c'est quand même difficile à trouver. Et comme le disait Mary Taylor, une amie de Charlotte Brontë, une féministe anglaise, dans un texte qui s'appelle « The First Duty of Women », alors ça c'est toujours Catherine Blunden qui cite ça dans « Le travail et la vertu », c'est un texte qui date de 1870, et donc « The First Duty of Women », ça veut dire « Le premier devoir des femmes ». Donc elle dit « Recevoir peu d'impressions, mener la vie presque solitaire et sans événement, qui est considérée comme celle qui convient aux femmes », c'est approcher les bords de la folie, de l'état où la raison ne peut distinguer le vrai de l'imaginaire et où elle est davantage sous la domination de ce dernier. Et donc, si elles sont malades, on va même continuer à leur prescrire le repos le plus total, l'absence d'activité intellectuelle, qu'on considère comme nocive, le calme absolu. Et plusieurs médecins étaient de nombreux médecins étaient de cette école-là à la fin du 19e siècle. Donc pour résumer, il est à la mode d'être malade, le mode de vie dans lequel on enferme les femmes les pousse à la dépression et à des états ultra nerveux, et quand elles souffrent de dépression, on les enferme aussi davantage dans une inactivité forcée. Par rapport à ça, il y a quand même une petite lueur d'espoir, qui est de ce que disent Barbara Ehrenreich et Deirdre English dans leur livre « Fragile ou contagieuse ». Elle dit que cette tendance de la maladie en permanence a aussi pu être utilisée par des femmes comme alibi ou comme prétexte pour, par exemple, ne pas avoir à fournir de services sexuels, à se dédouaner d'activités qu'elles ne veulent pas faire. C'était aussi un refuge que de se cacher derrière la maladie dans laquelle on les poussait tant à être. Parce que, évidemment, quand on met quelqu'un dans une condition, il peut toujours se servir de cette condition pour parfois la retourner contre son oppresseur, espérons. Aujourd'hui, à ce sujet, je voulais lire un livre de Charlotte Perkins Gilman, qui est une féministe américaine qui a écrit des livres, des romans, des essais. Elle a aussi écrit un essai qui n'est pas traduit, qui s'appelle « Les femmes et l'économie ». Donc elle a écrit énormément de choses, elle est née en 1860 et elle est morte en 1935. Donc elle est issue de la bourgeoisie intellectuelle américaine. Elle a été élevée dans des conditions difficiles par sa mère seule qui avait été abandonnée par son mari quand ses enfants étaient vraiment au bas âge. Et donc suite à cette expérience-là, Charlotte Perkins Gilman, elle va beaucoup hésiter à se marier. Elle va retarder cette décision pendant longtemps. Pour se consacrer à ses études, pour se consacrer au sport, pour se consacrer aussi à ses amies, probablement amantes, pour se consacrer à d'autres choses. Et quand elle a fini par le faire, c'était un peu par dépit, par défaut, parce qu'elle elle voyait bien que c'était trop difficile dans la société où elle vivait de vivre en femme célibataire. Et donc, Charlotte Perkins Gilman, elle va avoir un enfant après s'être mariée. Et après l'accouchement, elle va souffrir d'une forte dépression postpartum. Et en fait, elle supporte pas le rôle de mère, de femme au foyer dans lequel son mari et la société veulent la mettre. Elle est envoyée chez un docteur qui s'appelle Silas Ware Mitchell, qui prescrit à ses patientes dépressives, ce dont on parlait juste avant, un traitement par l'absence de toute activité intellectuelle, la mort de toute créativité artistique considérée comme dangereuse. Et donc, en fait, il va l'empêcher d'écrire. Et elle va aller encore plus mal, encore plus mal, encore plus mal. Et heureusement, elle va prendre conscience de tout ça, elle va se séparer de son mari en 1888, et elle va divorcer en 1894, ce qui est à l'époque quasiment impensable. Et ensuite, le reste de sa vie, elle va s'engager dans des luttes féministes, notamment pour le suffrage des femmes, et elle va écrire de nombreux livres, dont une utopie qui s'appelle Herland, qui n'a pas été traduite en français, qui parle d'une société où les femmes ont vaincu le problème de la reproduction et dans lequel il n'y a plus d'hommes. Donc je serais assez curieuse de voir cette utopie séparatiste de la lire. Donc je vais essayer de la trouver. Et donc de cette expérience de dépression et d'enfermement suite à cette dépression postpartum, elle a écrit un livre qui est un texte extrêmement court et qui est un texte absolument incroyable, extraordinaire, qu'on va lire aujourd'hui. C'est une nouvelle, c'est très court. Ça s'appelle en anglais « Le papier peint jaune » et ça a été traduit en français sous le titre « La séquestrée » aux éditions Phébus, mais ça existe également sous le titre « Le papier peint jaune » aux éditions Des Femmes. Alors moi j'ai la traduction chez Phébus, on s'appelle « La séquestrée » et c'est traduit par Diane de Margerie. On va lire « Le papier peint jaune » de Charlotte Perkins Gilman. C'est un texte qui date de 1894 ou quelque chose comme ça. C'est très rare que des personnes ordinaires, comme John et moi-même, louent pour l'été une demeure ancestrale. Une demeure qui rappelle les maisons coloniales, un domaine héréditaire. J'irais jusqu'à dire une maison pleine de fantômes, capable de vous soulever au pinacle de la béatitude romantique. Mais voilà qui serait trop exigé du destin. Pourtant, j'affirme hautement qu'il y a ici quelque chose d'étrange. Sinon, pourquoi serait-elle cette maison si peu chère? Et pourquoi est-elle restée vide si longtemps? John se moque de moi, bien sûr, mais à quoi d'autre s'attendre dans un mariage? John est pragmatique à l'extrême. Il n'a aucune patience à l'égard de la foi, éprouve une répulsion intense envers la superstition. Et il se gausse ouvertement de tout ce qui n'est pas tangible, visible et traduisible en chiffres. John est médecin, et c'est là, peut-être, bien entendu je ne le dirai jamais à âme qui vive, mais après tout, ceci n'est que du papier mort, et l'écrire soulage mon esprit. C'est là, peut-être, la raison pour laquelle mon état ne s'améliore en rien. Il ne croit pas que je suis malade, vous comprenez? Alors, que peut-on faire? Si un médecin de haut niveau, votre propre mari qui plus est, se porte garant auprès des amis et des membres de la famille, que vous n'avez vraiment rien, tout juste une simple dépression passagère, un léger penchant à l'hystérie, que peut-on faire? Mon frère est médecin lui aussi, d'un haut niveau également, et il dit la même chose. Alors je fais mes séjours ici, je prends mes phosphates ou phosphites, c'est l'un ou l'autre, mes fortifiants, du grand air, de l'exercice, mais il m'est absolument interdit de travailler jusqu'à ce que je sois guéri. Personnellement, je n'approuve pas leurs idées. Personnellement, je crois qu'un travail intéressant qui procurerait un changement et qui me stimulerait me ferait du bien. Mais que peut-on faire? Malgré eux, j'ai quand même réussi à écrire pendant quelque temps, mais il est vrai que cela m'épuise d'avoir à le faire si sournoisement quand je n'ai pas à me heurter à leur pesante opposition. Parfois, j'imagine que dans ma condition, si j'étais moins contrarié, si je rencontrais une stimulation plus grande. Mais John me dit que le pire est de réfléchir à mon état, et j'avoue que je me sens toujours mal dès que j'y pense. Alors j'y renonce, et je vais parler de la maison. Un domaine vraiment magnifique, tout à fait isolé, à l'écart de la route, à bien 3 000 du village, qui me fait penser à ces demeures anglaises dont on parle dans les livres, car il y a des haies, des murets, des portails, qui ferment avec des verrous, et tout un lot de petites maisons indépendantes, destinées aux jardiniers et domestiques. Le jardin est merveilleux. Je n'ai jamais vu un jardin pareil. Touffu, spacieux, plein de chemins bordés de buis, avec des tonnelles à l'ombre desquelles on peut s'asseoir sous les vignes. Il existait des serres autrefois, mais elles se sont effondrées. Je crois qu'il y a eu des ennuis juridiques concernant la succession, et de toute façon, le domaine est resté à l'abandon pendant des années. Voilà qui rend dérisoire mon obsession des fantômes, j'en ai peur. Mais peu importe. Quelque chose d'étrange hante cette maison. Oui, je le sens. Je l'ai même dit à John un soir de clair de lune, mais il m'a répliqué que ce que je sentais n'était qu'un courant d'air et il a fermé la fenêtre. Parfois, je me mets en colère contre John de manière excessive. Je n'ai jamais été aussi vulnérable qu'à présent. Cela doit être à cause de mon état nerveux. Mais John me dit que si je me laisse aller, je vais cesser de me contrôler. Aussi, je me donne du mal pour me dominer, devant lui tout au moins. Et cela me cause une fatigue immense. Je n'aime pas du tout notre chambre. Celle que je voulais était au rez-de-chaussée et elle donnait au dehors. Elle avait une fenêtre encadrée de roses avec des rideaux ravissants. Mais John n'a pas voulu en entendre parler. Il dit que cette chambre-là n'a qu'une seule fenêtre, qu'il n'y a pas la place pour deux lits ni d'autres chambres adjacentes disponibles pour lui. Il est très attentif, très tendre et me laisse à peine bouger sans me donner ses instructions. Tout est prévu dans mon emploi du temps pour chaque heure du jour. Il me décharge de tout souci. Aussi, je me sens d'une basse ingratitude de ne pas lui être plus reconnaissante. Il dit que si nous sommes ici, c'est uniquement à cause de moi, pour que je me repose complètement et que je respire tout le bon air possible. « Ton activité dépend de tes forces, ma chérie, dit-il. Manger dépend de ton appétit, mais le bon air, tu peux en respirer sans cesse. » Aussi avons-nous pris la chambre d'enfant qui se trouve tout en haut de la maison. C'est une grande pièce aérée, trouée de fenêtres, qui occupe la quasi-totalité de l'étage, pénétrée de soleil. Avant d'être une chambre d'enfant, elle servait de salle de jeu, j'en suis sûre, car les fenêtres sont grillagées, comme pour des petits, et des agrès sont scellés dans le mur avec d'autres instruments. Puis elle a dû servir de salle d'études pour garçons, à en juger par l'état de la peinture et du papier. Ce papier est arraché par lambeaux autour de la tête du lit, aussi loin que je peux étendre le bras, tout comme il est arraché en face, au bas du mur. Je n'ai jamais vu un papier plus laid de ma vie. Son motif est vulgaire et voyant, une véritable injure à tout sens artistique. Il est suffisamment monotone pour brouiller la vue, mais assez précis pour constamment provoquer une curiosité irritée. Quand vous en suivez les courbes incertaines pendant un petit moment, voilà qu'elles se suicident tout à coup et que, plongeant à des angles absurdes, elles se détruisent de façon chaotique. La couleur en est repoussante, presque révoltante. Un jaune sale qui fermente, étrangement fané par la lumière tournante du coucher de soleil. Une couleur d'un orangé assourdi par endroits et d'une teinte sulfureuse et maladive à d'autres. Pas étonnant que les enfants l'aient pris en horreur. Moi-même, je me mettrais à le haïr si je devais rester ici longtemps. Mais voilà John, je dois cacher cette feuille de papier. Il ne supporte pas de me voir écrire le moindre mot. Where is the line with you? 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 Voici 2 semaines que nous sommes installés et depuis ce premier jour, je n'ai plus jamais éprouvé l'envie d'écrire. Maintenant, je suis assise près de la fenêtre, en haut, dans cette atroce chambre d'enfant et plus rien ne m'empêche d'écrire autant que je le veux, si ce n'est que je manque de force. John s'absente toute la journée et même parfois la nuit lorsqu'il est appelé pour des cas très graves. Je suis contente, mon cas ne l'est pas, mais j'ai des troubles nerveux terriblement déprimants. John ignore combien je souffre. Il est persuadé que je n'ai aucune raison de souffrir et cela lui suffit. Bien sûr, il ne s'agit que de nervosité. C'est un tel poids pour moi de ne pouvoir accomplir aucun de mes devoirs. Je voulais tellement être une aide véritable pour John, un réconfort et un repos, et me voici déjà devenue une sorte de fardeau. Personne ne pourrait croire quel effort c'est d'accomplir le peu dont je sois capable, m'habiller, recevoir, commander des choses. C'est une chance que Marie sache si bien s'occuper du bébé, ce cher bébé. Il m'est impossible de m'en occuper moi-même, cela me rend trop nerveuse. Je suppose que John n'a jamais été nerveux de sa vie. Il se moque tant de moi au sujet de ce papier peint. Au début, il avait l'intention de retapisser la chambre, mais ensuite il m'a dit que je me laissais omnubiler par ce papier jaune, qu'il n'y avait rien de pire pour une malade souffrant des nerfs que de céder à de tels fantasmes. Il m'a dit qu'à peine le papier serait changé, ce serait autour du bois du lit, puis à celui des fenêtres à barreaux, puis à la grille en haut de l'escalier, et ainsi de suite. « Tu sais que cet endroit te fait du bien, » m'a-t-il dit. « Et vraiment, ma chérie, je ne tiens pas à rénover la maison juste pour une location de 3 mois. » « Dans ce cas, descendons au rez-de-chaussée, les chambres sont si jolies, » lui ai-je proposé. Il m'a aussitôt serré dans ses bras, m'a traité de petite sotte bien-aimée, m'assurant qu'il irait jusqu'à la cave pour me faire plaisir, et même qu'il la ferait lessiver. Bien sûr, il a raison, quant au lit, aux fenêtres et à tout le reste. C'est une chambre aérée, confortable, comme on peut en rêver, et bien sûr, je ne suis pas assez sotte pour le déranger ainsi à cause d'un simple caprice. Oui, je m'affectionne vraiment à cette chambre, si ce n'est pour cet affreux papier sur le mur. D'une des fenêtres, je peux voir le jardin, ses tonnelles ombreuses, mystérieuses, son fouillis de fleurs à l'ancienne, ses buissons, ses arbres noueux. De l'autre, j'ai une vue superbe sur la baie, avec son petit môle privé qui appartient au domaine. Une belle allée ombragée le rejoint en descendant. J'ai toujours l'impression de voir des formes s'avancer dans ses chemins et sous les tonnelles. Mais John m'a mise en garde contre ses rêveries. Il dit qu'avec mon imagination et la manie que j'ai d'inventer des histoires, une fragilité nerveuse telle que la mienne pourrait dégénérer en toutes sortes de divagations fantasques, qu'il me faut user de toute ma volonté et de mon bon sens pour en finir avec cette tendance. Alors je fais un effort. Parfois, je pense que si seulement j'allais assez bien pour écrire un peu, cela me reposerait, me déchargerait du poids oppressant des idées. Mais quand j'essaye, je trouve que cela me fatigue beaucoup. C'est si décourageant de ne pouvoir partager son travail avec personne, de ne recevoir aucun conseil. Dès que je serai vraiment guérie, John me dit que nous pourrons inviter notre cousin Henri et Julia pour un séjour prolongé, mais plutôt allumer un feu d'artifice sous mon oreiller que de me laisser voir des amis aussi stimulants en ce moment. J'aimerais tellement guérir rapidement. Je ne dois pas trop y penser. Il me semble que ce papier peint sait quelle influence morbide il possède. I want to...
Thank you.
voici la sœur de John, une personne tellement aimable et qui prend si bien soin de moi. Il ne faut surtout pas qu'elle me trouve en train d'écrire. C'est une maîtresse de maison parfaite et convaincue. Elle n'a pas d'autre ambition. Je crois vraiment qu'elle est persuadée que c'est le fait d'écrire qui m'a rendue malade. Mais je peux écrire lorsqu'elle est sortie et que je constate à travers les vitres combien elle s'est éloignée. Une des fenêtres surplombe la route. Une très belle route ombragée qui tourne en lacets. L'autre donne sur la campagne, une très belle campagne, qui plus est, ponctuée de grands ormes et de prairies veloutées. Ce papier peint possède un autre motif plus flou, particulièrement irritant, car il ne se distingue que sous certains éclairages et encore plutôt vaguement. Là où il n'est pas fané, quand il est touché par les rayons du soleil, il me semble voir une silhouette bizarre, provocante et informe, qui rôde derrière le motif superficiel, imbécile et vulgaire. Ah, voici la sœur qui monte l'escalier. Eh bien, c'en est fini du 4 juillet. Tout le monde est parti et je suis éreintée. John pensait que cela me ferait du bien de voir un peu de monde. Nous avons juste eu mère, Nelly et les enfants venus pour la semaine. Bien sûr, je n'ai rien eu à faire. C'est Jenny qui se charge de tout à présent. Mais cela m'a tout de même fatiguée. John dit que si je ne progresse pas plus rapidement, il m'enverra chez le docteur Weir Mitchell à l'automne. Mais je n'ai aucune envie d'y aller. J'avais une amie qui lui fut confiée. Elle dit qu'il est tout à fait comme John et comme mon frère, en pire. Et puis, c'est une telle expédition d'aller si loin. Je n'arrive pas à penser que je puisse me rendre utile à quoi que ce soit, et je deviens terriblement irritable et morose. Un rien me fait pleurer, et je pleure la plupart du temps. Bien sûr, je m'abstiens quand John est là, ou n'importe qui d'autre. Je pleure quand je suis seule. Et maintenant, je suis seule très souvent, John étant fréquemment retenu en ville par ses patients. Jenny est compréhensive, elle me laisse tranquille quand j'en ai envie. Alors, je me promène un peu dans le jardin, je descends la belle allée. Je m'assieds sous le porche couvert de roses, mais je reste aussi très souvent couchée, ici, dans cette chambre du haut. Vraiment, je m'affectionne à cette chambre, malgré le papier peint. À cause de lui, peut-être ? Tant il m'obsède. Je reste étendue sur ce grand lit inamovible. Je crois qu'il est fixé au sol par des clous. Et, heure après heure, je fais le tour du motif sur le mur. C'est un véritable exploit, je vous assure. Je commence, disons, par le bas, là, dans le coin encore intact, et je décide pour la millième fois que je suivrai ce motif démentiel jusqu'au bout pour parvenir à une sorte de conclusion. Je connais quelque peu les principes du dessin et je vois bien que ce motif ne repose sur aucune loi de circularité, d'alternance, de répétition ou de symétrie, ni sur aucun système connu. Il ne sait que se répéter sur chaque lai. Vu d'un certain angle, chaque lai est indépendant. Les courbes floues et les arabesques d'une sorte de dessin romantique décadent, atteint de délirium très mince, se fondent de haut en bas, de bas en haut, en colonne d'une agressivité solitaire. Sous un autre angle, elles se rencontrent en diagonale et leurs contours se perdent en grandes vagues étendues penchées, vision d'horreur, comme des algues enchevêtrées en pleine poursuite. Sur tout ce chaos s'étale aussi à l'horizontale, du moins me semble-t-il, et je m'épuise à essayer de distinguer le schéma qui préside à son mouvement. Ils se sont servis d'un de ces motifs comme frise, ce qui ajoute à l'aspect chaotique de l'ensemble. Au fond de la chambre, le papier peint est à peu près intact, et quand se calment les lumières obliques, que le soleil couchant l'éclaire directement, je peux très bien imaginer, après tout, qu'il irradie et que ces arabesques multiples vont se ramifier autour d'un centre commun pour se précipiter tête la première dans une folie partagée. Suivre ce motif m'épuise, je vais me reposer un peu. Je ne sais pas pourquoi je dois écrire tout ceci. Je n'en ai aucune envie. Je n'en suis pas capable. Je sais que John trouverait tout cela absurde. Pourtant, je dois m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Je dois réfléchir. C'est un tel soulagement. Mais l'effort est en train de dépasser le sentiment de délivrance. La moitié du temps, je suis une paresse affreuse. Je reste étendue très longtemps. John dit que je ne dois pas perdre mes forces. Il me fait prendre de l'huile de foie de morue et plusieurs remontants, sans parler de la bière, du vin et des viandes de choix. Cher John, il m'aime tant et déteste me voir malade. J'ai essayé l'autre jour d'avoir avec lui une vraie conversation, sincère et raisonnable, pour lui dire combien j'aimerais qu'il me laisse partir voir son cousin Henri et Julia. Mais il m'a expliqué que j'étais incapable de faire le voyage, qu'une fois arrivé, je serais incapable de supporter le séjour là-bas. Je n'ai fait qu'aggraver mon cas, car j'étais en pleurs avant même d'avoir fini. Cela devient très difficile pour moi de penser avec lucidité. À cause de cette fragilité nerveuse, sans doute. Alors le cher John m'a prise dans ses bras. Il m'a tout simplement portée en haut et couchée sur le lit. Il s'est assis à côté de moi et m'a fait la lecture, jusqu'à ce que ma tête éclate. Il m'a dit que j'étais sa chérie, son réconfort, tout ce qu'il possédait, qu'il fallait que je prenne soin de moi, ne serait-ce que pour lui, et ne plus tomber malade. Il a dit que je suis seule à pouvoir m'en sortir, qu'il me faut user de volonté, me dominer, ne pas me laisser entraîner dans des rêvassements chimériques. Une seule chose me console. Le bébé va bien. Il est heureux et n'est pas obligé d'occuper cette chambre d'enfant avec son atroce papier peint. Si nous ne l'occupions pas, ce serait lui, le cher bébé. Quelle chance il a d'y avoir échappé. Ah, pour rien au monde, je voudrais qu'un enfant à moi, un petit être si vulnérable, occupe une chambre pareille. Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais c'est heureux, après tout, que John m'ait obligé à rester ici. Je peux le supporter tellement mieux qu'un petit bébé, vous comprenez ? Bien sûr, je ne leur en parle plus jamais. Je suis trop prudente pour cela. Mais je ne cesse d'être aux aguets. Il y a des choses concernant ce papier peint que personne ne sait, sauf moi, et que personne ne saura jamais. Derrière le motif du premier plan, des formes floues se précisent davantage chaque jour. Il s'agit toujours de la même forme, mais elle se multiplie. On dirait qu'une femme se penche jusqu'à terre pour aller ramper derrière le dessin. Cela ne me plaît pas du tout. Je commence à croire que j'aimerais tant que John m'emmène loin d'ici. C'est si difficile de discuter mon cas avec lui, parce qu'il est si intelligent et qu'il m'aime tant. Pourtant, hier soir, j'ai essayé. Il y avait un clair de lune. La lune éclaire toute la chambre comme le ferait un soleil. Parfois, je déteste la regarder. Elle rôde si furtivement, elle se glisse toujours à travers une fenêtre ou une autre. John était endormi et je répugnais à le réveiller. Alors je suis restée immobile à regarder le clair de lune bouger sur le papier peint jusqu'à ce que j'en éprouve des frissons. La forme floue derrière le motif paraissait agiter le papier comme si elle voulait le traverser. Je me suis levée doucement, je suis allée toucher le papier pour voir s'il bougeait vraiment. Quand je suis revenue, John était réveillé. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille ? » a-t-il demandé. « Cesse de te promener comme ça, tu vas prendre froid. » J'ai pensé que c'était une bonne occasion pour lui parler. Je lui ai dit que je ne faisais aucun progrès et que j'aimerais qu'il m'emmène hors d'ici. « Mais comment, ma chérie ? » a-t-il répondu. « Notre location se termine dans 3 semaines et je ne vois pas comment nous pourrions partir plus tôt. Les travaux ne sont pas terminés à la maison et je ne peux en aucun cas quitter la ville en ce moment. Bien sûr, si tu courais le moindre risque, je trouverais le moyen, je le ferais. Mais tu vas vraiment mieux, chérie, que tu t'en aperçoives ou pas. Je suis médecin, ma chérie, et je sais. Tu as pris du poids et des couleurs, tu as meilleur appétit, je me sens vraiment rassurée à ton sujet. Je n'ai pas pris le moindre poids, Argège. Je pèse même moins qu'auparavant. Mon appétit est peut-être meilleur le soir quand tu es là, mais il est pire le matin quand tu es absent. Que béni soit ce petit cœur, m'a-t-il dit en me serrant contre lui, qu'il soit malade si ça lui chante. Mais ajoutons à la beauté de ce clair de lune en nous endormant. Nous parlerons demain matin. Alors, tu ne veux pas partir d'ici ? Demandai-je tristement. Comment le pourrais-je, chérie ? Cela ne fait plus que 3 semaines, après quoi nous ferons un petit voyage sympathique de quelques jours en attendant que Jenny prépare la maison. Je t'assure, chérie, que tu vas mieux. Mon corps, peut-être, mais... commençais-je. Je me suis arrêtée net, car il s'était redressé et me lançait un regard si sévère, si lourd de reproches, que je ne pouvais plus articuler un mot. « Ma chérie, dit-il, je t'en supplie, pour l'amour de moi, de notre enfant, de toi-même, ne permets plus un seul instant une telle idée d'envahir ton cerveau. Il n'y a rien de si dangereux, de si destructeur pour un tempérament tel que le tien. C'est une idée absurde et fausse, je te l'affirme. Ne peux-tu faire confiance au médecin que je suis ? Alors, bien sûr, je n'ai rien ajouté et nous nous sommes rendormis. Il me croyait endormi la première, mais je ne l'étais pas. Et je suis restée là, étendue, éveillée pendant des heures, essayant de démêler si les deux motifs du papier peint bougeaient ensemble ou séparément. À la lumière du jour, semblable motif, avec son manque de continuité, de cohérence, son défi jeté aux lois de l'équilibre, exaspère un esprit normalement constitué. Rien que la couleur en est hideuse, douteuse, exaspérante. Quant au dessin, il est une véritable torture. Vous croyez l'avoir maîtrisé, mais juste quand vous pensez en avoir fait le tour, voilà qu'il s'inverse et vous laisse ahuri. Il vous gifle, vous assomme, vous écrase. Un vrai cauchemar. À sa surface, le dessin trace une sorte d'arabesque évoquant la forme d'un champignon. Imaginez un champignon vénéneux, ou plutôt une ligne interminable de champignons vénéneux et bourgeonnants, proliférant en circonvolution infinie. Oui, c'est un peu cela. Enfin, parfois. Il y a un détail frappant concernant ce papier peint que je suis seul, semble-t-il, à discerner. Il change avec la lumière. Quand le soleil se lève et transperce les vitres, je guette toujours le premier rayon qui pénètre, long et droit. Le papier change avec une telle rapidité que j'en suis ahuri. C'est pour ça que je ne cesse de le guetter. Dans l'éclat lunaire, quand elle est haute, la lune éclaire la pièce entière toute la nuit, le papier devient méconnaissable. La nuit, peu importe l'éclairage, à la lumière du crépuscule, des bougies, de la lampe et surtout de la lune, on croit voir surgir des barreaux. Je parle du motif au premier plan. La femme qui se cache derrière se distingue parfaitement. J'ai mis longtemps à comprendre ce qu'était cette forme floue, en retrait, mais je suis certaine à présent qu'il s'agit d'une femme. De jour, elle est asservie, tranquille. Je suppose que c'est ce motif qui la retient ainsi séquestrée. Cela me tourmente, m'absorbe pendant des heures. Je reste étendue de plus en plus longtemps. John dit que cela me fait du bien et que je dois dormir le plus possible. Il a même pris l'habitude de me forcer à me coucher une heure après chaque repas. C'est une mauvaise habitude, j'en suis convaincue, car voyez-vous, il m'est impossible de dormir. Du coup, cela m'incite à la fourberie, car je ne leur dis pas que je suis éveillée. Oh non ! Le fait est que je commence à avoir un peu peur de John. Il me paraît parfois des plus bizarres, et même Jenny a un regard énigmatique. Il me traverse parfois l'esprit comme une hypothèse scientifique que c'est à cause du papier peint. J'ai observé John sans qu'il s'en aperçoive. Je suis entrée brusquement dans la chambre, sous des prétextes divers, et je l'ai surpris plusieurs fois, en train d'observer le papier peint. Quant à Jenny, je l'ai surprise à son tour, la main posée dessus. Elle ne savait pas que j'étais là, et quand je lui ai demandé d'une voix douce, extrêmement douce, de la façon la plus discrète possible, ce qu'elle faisait avec ce papier, elle s'est retournée comme une voleuse prise la main dans le sac. L'air excédé, elle m'a demandé pourquoi je voulais l'effrayer. Puis elle m'a dit que le papier déteignait, qu'il avait laissé des traces jaunes sur tous nos vêtements et qu'elle aimerait que nous soyons plus soigneux. Quoi de plus innocent, n'est-ce pas ? Pourtant, je sais qu'elle était occupée à étudier le motif. Mais je suis bien décidée à ce que personne, sauf moi-même, n'en déchiffre le secret. Voilà, donc c'était un livre de Charlotte Perkins Gilman qui a été écrit dans les années 1890, qui s'appelle « Le papier peint jaune ou alors la séquestrée ». Alors j'espère que ce livre vous a intrigué, captivé, déboussolé, désorienté comme il m'a fait et que ça vous donne envie de le lire. En tout cas, je vous conseille vraiment la lecture. C'est à la fois une réflexion sur cette condition de malade qu'on imposait aux femmes bourgeoises à l'époque et aussi sur le fait qu'on leur empêchait toute activité intellectuelle. Ça décrit vraiment très bien tout ça et en plus c'est extrêmement bien écrit et c'est très très court. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la locale et on va finir en écoutant Camille, une chanson qui s'appelle Assise. Et les chansons qu'on a écoutées dans cette émission sont Wish Someone Would Care de Irma Thomas et Where is the Line de Björk. Et là, on termine avec une chanson de Camille qui s'appelle Assise.
Cette fille, c'est sa chaise à mon âge.